Mesdames, Messieurs, bonsoir. Michel Pétiot-Létang est évidemment une personnalité à Bordeaux par son métier. Il a marqué la ville physiquement par ses monuments. Il est une personnalité aussi par son influence, par lui-même. Voilà. Un mot pour vous rappeler que c'est un pur produit de notre terroir. Il est gascon, c'est un gersois, et en vérité, c'est un bordelais, puisqu'il a fait ses études à Bordeaux. Aux Beaux-Arts, j'ai noté qu'il avait été l'élève de deux artistes tout à fait remarquables, Charazac et Marty. Et je me suis demandé ce qu'il leur devait. Et alors, en rêvant un peu, je me suis dit peut-être que c'est à Charazac qu'il doit ce trait d'une extrême nervosité, d'une extrême liberté, et à Marty la précision peut-être et la justesse. Je ne veux pas trop m'étendre. Puis il se forme chez les architectes bordelais de la nouvelle époque, les grands architectes, Claude Ferré, puis Salier, Courtois, ceux qui rompent avec la tradition historique et orientent l'architecture bordelaise vers le monde du béton, le monde de Le Corbusier, du Bauhaus, la nouvelle architecture. C'est sa formation. Voilà. Il complète par son grand tour, comme on disait au XVIIIe siècle, en faisant une sorte de tour du monde grâce à un mécène envers lequel il manifeste beaucoup de reconnaissance. Il ne cesse jamais de le dire. Alors, il passe à Chandigarh, à Tokyo, à San Francisco, à Chicago. C'est-à-dire qu'il entre en contact avec les réalisations des maîtres les plus remarquables, des stars de l'architecture contemporaine. Puis il arrive à Bordeaux en 66, il ouvre son agence rue des Trois-Conils. Ça marche, on va voir. En 74, il la transporte à Mérignac et elle devient en 2004 l'agence 4A. Voilà. C'est une entreprise importante qui se classe parmi les plus importants cabinets d'architecture de notre ville. Il y a 6 architectes associés qui ont chacun leur responsabilité dans l'entreprise et au total 29 ou 30 salariés permanents. C'est dire, quand je dis que Michel Pétiot compte, ça correspond, malgré sa modestie, il a fait un petit l'air comme ça pour dire mais non, mais en réalité c'est mais oui, voilà. Donc au total, nous en sommes maintenant à 50 ans d'architecture. C'est quand même pas mal. Ce jeune homme a déjà un demi-siècle de travail derrière lui. Et pour célébrer en quelque sorte cet anniversaire, comme il convient, il a publié aux éditions A, voilà, qui sont ses propres éditions. On pourrait en dire un mot, je le dis tout de suite, bon, voilà. C'est un peu sa danseuse, son plaisir. Et c'est un plaisir qui lui permet de montrer sa générosité parce que non seulement il se publie, c'est la moindre des choses, mais il fait des publications pour ses amis. Ses amis peintres, sculpteurs, Hugues Morin, Bouilly, Hugon, d'autres encore, et même des amis littérateurs, pourrais-je dire, hein, auxquels il offre quelques dessins en couverture. Je pense aux œuvres de Jean Dicasso qu'il a publiées également. Donc voilà, il est aussi éditeur. C'est un des aspects de cette personnalité un peu protéenne qui a tellement, tellement d'activités. Nous en revenons aux 50 ans. Donc deux volumes que vous avez sous les yeux. L'un s'appelle Utopie et quotidien. Alors, 1966-2016, c'est les 50 ans, et ça accompagne la belle exposition qu'il avait organisée à la vieille église Saint-Vincent à Mérignac pour montrer les documents, maquettes, photos, textes. Divers. Le second ouvrage est plus orienté vers l'une des catégories dans laquelle il a beaucoup travaillé et beaucoup réussi, je pense, c'est l'ouvrage qu'il consacre plus spécialement aux maisons qu'il a construites, à l'architecture de l'habitat. C'est un ouvrage également magnifique qui a été préfacé par Patrick Rodel, par Marc Saboya, ici présent, et qui bénéficie de très, très belles photos de Dominique Lelande. Voilà. Donc, voilà la raison d'être aujourd'hui, 50 ans d'architecture, avec Michel Pétiot-Létang. Alors, j'ai dit toutes ces activités. Il faut dire aussi qu'il aime écrire. Et évidemment, comme j'ai dit, il a sa maison d'édition, donc il se publie et publie beaucoup des ouvrages, bien entendu, tous en relation avec l'architecture, l'histoire, l'histoire régionale. Il reste très, très, très bordelais dans ses écrits, même s'il ouvre des perspectives vers Saint-Pétersbourg ou vers Séville à l'occasion. Voilà. Plus d'une vingtaine d'ouvrages, je crois, portent sa signature. Donc, un homme infatigable, parce qu'à tout ça, il faut ajouter qu'il donne des conférences, il fait des expositions, il passe à la télé, et ce soir, donc, il présente ses livres pour notre plaisir. Voilà. Il s'agit maintenant de présenter ces ouvrages. D'abord, le premier, l'ouvrage peut-être le plus général. Je voudrais lui poser des questions qui lui semblent un peu peut-être en dehors des œuvres elles-mêmes, mais pour nous, comment fonctionne ce métier d'architecte ? Il n'y a pas de maître d'ouvrage sans maître d'œuvre. Alors, comment on obtient une commande ? Et tant que j'y suis pour vous ouvrir la voie peut-être à des histoires brièvement résumées, comment on obtient une commande et comment ça se passe avec les maîtres d'œuvre quand ils sont très puissants, quand c'est le maire d'une grande ville, quand c'est presque un chef d'État, quand c'est une entreprise tout à fait compliquée et puissante, je pense à certains quotidiens, etc. Voilà, comment vous trouvez, pour durer 50 ans, il faut trouver des clients. Comment ça se passe ?
Alors, ce n'est pas évident, d'abord, mais surtout, d'abord, ça s'appelle des maîtres d'ouvrage. Hein. Oui. Le maître d'œuvre, c'est l'architecte. Oui, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais à l'école d'architecture quand un industriel jeune et dynamique a frappé à la porte de l'école pour avoir un nègre, ce qu'on appelait un nègre, c'est-à-dire quelqu'un qui gratte pas cher, rapidement, et qui permet de partir. Et là, je vais faire l'anecdote parce qu'elle est amusante. J'avais un peu peur, j'étais jeune, j'avais 21 ans, et je me suis fait accompagner chez ce monsieur, par un camarade qui était costaud, grand, qui revenait de faire la guerre d'Algérie, qui avait tout vu, et on a dit, on va faire le projet à deux. Et son thème, c'était, je suis rue des Alamandiers, c'est juste derrière Saint-Michel, j'ai une entreprise, et les gens, ils rentrent par toutes les portes, c'est un désordre pas possible, je perds, je sais pas s'ils me volent pas un peu, je sais pas, etc. Trouvez-moi une idée. Et on revient, et mon ami Patrick Maxwell, malheureusement disparu, fait un projet très organisé avec un tapis en coco qui permettait d'aller voir sur les murs des marteaux piqueurs, etc., etc. Alors le maître d'ouvrage, s'appelait Monsieur Paul Périnet, dit « Vous n'avez pas du tout, moi je ne suis pas un magasin de mode, les gars ils arrivent les pieds crottés, remplis de cambouis, c'est pas comme ça que je vais présenter mon projet. Et vous là, le petit, qu'est-ce que vous avez fait ?» Alors je me lève, timide, et je lui dis « Mais moi, j'ai rien fait. » Simplement, je vous propose d'écrire de peindre votre porte en bleu et d'écrire entrée. Et ça devrait marcher. Ah, il m'a dit, un, c'est pas cher. Deux, si je me trompe, je pourrais réparer. Donc, je garde cette idée. Et j'ai démarré comme ça, voilà. Et je crois que
c'est pas toujours comme ça.
Voilà. Non, mais c'est pour raconter que la vie est faite de hasard. Et donc, pour les architectes, il y a deux solutions. Soit des concours qui se sont développés, mais qui avant n'existaient pas. Parce qu'avant, monsieur le maire de Bordeaux, il téléphonait à un ami architecte, fais-moi un hôpital. Bon, très bien. Tandis que maintenant, ils sont obligés de passer par des concours. Donc, il y a une capacité pour les jeunes architectes à être retenus à concourir, ce qui est le plus difficile, et ensuite à gagner le concours. Mais pour le quotidien, qui est fait de maîtres d'ouvrage traditionnels, qui vont, les personnes qui veulent faire leur maison, ou l'industriel qui veut faire son usine, ou le promoteur qui veut construire un ensemble, un immeuble pour des logements ou autre, il faut qu'ils nous connaissent. S'ils ne nous connaissent pas, ils ne nous trouvent pas. Donc moi, au départ, j'étais comme tous les jeunes architectes. On était 4 camarades, d'ailleurs, à travailler ensemble à partir de 1964 en chambre. Et puis, on cherchait des clients. Il y en a un qui avait un copain, l'autre avait son tonton, le troisième. Ça démarre comme ça, si vous voulez. Et puis, moi, grâce à la rencontre avec Paul Périnet et aux travaux que j'ai faits avec lui, ensuite, il a été mon cicérone. Il m'a ouvert les portes à Bordeaux. Et comme j'ai réussi, si je puis être prétentieux, là, ses premiers travaux, notamment sa maison, notamment son usine, les gens ont dit, mais qui c'est qui vous a fait ça? Il dit, c'est... Voilà. Et les gens, après, m'ont appelé. Et je l'ai passé une grande partie de ma vie sans faire de concours.
D'accord. Là, vous parlez, ça se passe bien. Mais il me semble avoir lu qu'à plusieurs occasions, quand vous avez affaire à des maîtres d'ouvrage extrêmement puissants. Un chef d'État, M. Sékou Touré, à Moscou, M. Chevernadze, je ne parle pas de la France avec des maires des grandes villes d'Aquitaine ou proches, M. Baudis ou même M. Juppé.
Oui, alors le hasard.
Rapidement.
Hein, oui, rapidement.
Choisissez entre ceux-là.
Oui, mais pourquoi j'ai rencontré ces jeunes gens? C'est parce que j'avais eu quelques utopies, dont on va sans doute parler, qui étaient que moi, mon quotidien, il me nourrit pas seulement de façon par l'argent, il me nourrit aussi intellectuellement. Mon quotidien m'apprend des choses. J'apprends des gens que je rencontrais un jour. Je me suis dit, mais il faudrait arriver à faire des maisons très bon marché, avec le matériau le moins cher qui existe, c'est la terre. Et je me suis mis à inventer un système qu'on a appelé la casalite, encore avec Paul Périnet, pour la recherche du nom, et qui je pourrais vendre dans les pays en voie de développement. Et je suis allé vendre mon idée. Mais plusieurs personnes en avaient eu connaissance, et c'est ainsi qu'avec la Banque mondiale, je me suis trouvé à rencontrer, je vais parler de Sékou Touré, j'ai rencontré Kadhafi aussi, qui est un autre problème, retrouvé en Guinée, qu'on appelle Guinée-Conakry, avec ce régime autoritaire, totalitaire, marxiste-léniniste, qui s'était dit pourquoi pas développer ça. Mais en même temps, il devait faire ce qu'on appelait l'OUA, c'est-à-dire l'ONU africaine, qui se réunit tous les 2 ans dans un nouveau pays. Et c'est l'occasion de ce pays de faire des travaux qui vont perdurer ensuite, qui vont devenir des bureaux, qui vont devenir des salles de concert, etc. Et je gagne ce concours en même temps, à ce moment-là. Et je suis, à ce moment-là, devenu architecte conseil de la Guinée-Conakry, à Paris, dans les grands hôtels. Il me faisait venir, il disait, voyez ce monsieur pour avoir... Et j'ai eu une période de ma vie assez faste, au niveau de la relation, parce que j'y ai perdu tout l'argent que j'ai voulu. J'étais assis à la table des ministres et on choisissait quelle entreprise japonaise ou italienne ou américaine qui allait faire l'adduction d'eau, le développement des routes, ou etc. Et puis, à ce moment-là, les Russes ont trouvé que M. Sékou Touré allait trop vers l'Occident, vers les pays capitalistes. Ils lui ont coupé les vivres. Carrément, j'ai vu une capitale où il n'y avait plus de voiture qui circulait et on m'a pris dans l'hôtel où j'étais, on m'a mis dans l'avion et on m'a dit dehors et avec d'autres personnes, je n'étais pas tout seul et c'est là que j'ai perdu beaucoup d'argent parce que je n'ai jamais été payé et donc ça m'a permis de voir un système de l'intérieur. C'est assez étonnant.
Donc vous voyez que le métier d'architecte est aussi parfois un métier d'aventurier, hein. Voilà. Alors, vous parliez de casalite, on a parlé de mille choses, et des maîtres d'œuvre nombreux, divers. Ça suppose également des programmes d'une très grande diversité également. Alors, il y a un domaine dont on parlera en particulier, c'est le domaine des maisons, de l'habitat. Mais en dehors donc de ce type de construction sans doute privilégiée, apparemment, vous êtes bon à tout. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde votre corpus, vous faites de l'habitat individuel, de l'habitat collectif, des sièges sociaux, des bureaux, des collèges, des écoles, des édifices publics, des usines, des centres commerciaux, etc. Voilà. Est-ce que... C'est évidemment pour répondre à la demande, ça va de soi. Mais est-ce que dans ces domaines, il y en a certains qui vous préférez, que vous, avec lesquels vous êtes plus à l'aise, qui vous inspirent davantage ou qui ont permis des réalisations dont vous êtes plus particulièrement satisfait ?
Oui, le métier d'architecte est un métier très compliqué, très riche, mais très passionnant. Très passionnant. Et moi, au lieu de m'être spécialisé dans les hôpitaux ou dans les écoles ou dans d'autres sujets, je me suis plutôt appliqué à répondre à toutes les personnes qui venaient me trouver et ne pas me cantonner. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup enrichi et ça m'a permis d'être peut-être un peu plus ouvert ou un peu plus... Et puis, je suis très disponible. J'adore être disponible quand on m'appelle. Bon, peut-être que c'est un peu stupide parce qu'on s'éparpille peut-être, mais voilà. Et ce que j'ai aimé le plus, malgré tout, c'est à la fois deux choses, c'est les maisons individuelles, parce que la maison individuelle, ça résume l'ensemble des programmes, l'ensemble des problèmes, c'est-à-dire ça va du programme, d'une famille qui va confier tout son argent à un étranger, qui va être amené à lui réaliser en principe son rêve dans des délais, et donc il y a une angoisse de la part du maître d'ouvrage qui existe même pour les industriels ou pas même les autres. Et puis il y a tous les problèmes, ils sont les problèmes administratifs pour le permis de construire, les problèmes de chantier, les problèmes d'entreprise, on a tout dans le besoin de l'idéal. Et la relation avec les futurs propriétaires, ceux qui vont l'habiter, est une relation que j'aime beaucoup parce qu'elle est toujours très intense. Et j'ai eu la chance de rester ami avec beaucoup de mes clients.
Vous ne les avez pas tous ruinés ?
Non, j'espère. Et là, le deuxième sujet, c'est de faire des utopies. Moi, ce qui me passionne, on vient de faire un très grand projet à Marseille, de 240 000 m², c'est énorme, mais c'était très bien, c'était très technique, c'était très intéressant, mais ce n'était pas aussi riche qu'une utopie. Et moi, par exemple, inventer la Cité mondiale du vin pour faire de Bordeaux la capitale mondiale du vin, personne ne me l'a jamais demandé. Mais finalement, on l'a réalisé. Et ça, c'est un travail de recherche sur l'histoire, sur le sujet, sur le terrain, sur le quartier, sur les hommes qui ont fait tout ça pour essayer d'en tirer un projet, quoi. Et donc, le projet que je préfère, c'est l'auditorium.
Je comprends. Bon, avant de passer aux maisons pour pas accaparer la parole, j'ai quand même deux questions à vous poser qui m'intéressent. Vous parlez d'utopie. Et c'est bien beau, les utopies, mais... je ne sais pas ce que vous entendez par là. Ce sont de très grands projets, peut-être irréalisables, peut-être réalisables, j'en sais rien, c'est le problème. Mais moi, je m'inquiète de savoir quand même comment ça fonctionne. On vous donne vraiment un vrai projet qui ne sort pas de vous, mais que l'on vous impose. Quand même, il y a des obligations, je dirais, de fonctionnalisme. Et il y a aussi, évidemment, ce qu'on peut appeler l'inspiration de l'architecte pour y répondre. Comment vous articulez votre travail ? C'est-à-dire, est-ce que vous partez du plan, c'est-à-dire la mise en œuvre de la fonction, du problème à résoudre, ou est-ce que... Et puis après, vous l'habillez avec une image.
Oui.
Ou est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que vous avez d'abord un geste architectural fort, comme on dit aujourd'hui partout, d'une façon, d'une sottise incroyable, les gestes architecturaux forts. Bon, bref, n'en parlons plus.
Non, voilà. moi
vous partez de l'idée globale d'un édifice, son allure ou le plan ?
Non, je parle jamais de l'idée globale. Je parle jamais de que pourra être le volume à la fin. Ma première réflexion, c'est de bien écouter, de lire. Les programmes sont de plus en plus précis. il y a 50 ans, les programmes n'étaient pratiquement pas écrits. Maintenant, les programmes sont très précis. Il y a des programmistes qui font les programmes pour les concours, etc. Il y a réglementation. Donc, le premier sujet, on a une feuille blanche, parce qu'on commence par une feuille blanche. Moi, je fais tout à la main. Je me sers très peu de l'ordinateur, sinon pas du tout. Ce sont mes collaborateurs qui sont brillants là-dessus. Et moi, je commence à dessiner la fonction, c'est-à-dire l'entrée. Par exemple, si c'est une usine, il y a des produits qui arrivent, ils sont manufacturés et ils ressortent, ils sont stockés et ils partent. Donc, je fais ce schéma, je le dessine, je regarde les mètres carrés, les hauteurs qui conviennent et je me dis, en fonction du terrain, parce que le terrain est toujours une très grosse contrainte, les accès, et je regarde comment peut s'organiser le programme en plan. Mais dans ma tête, bien sûr, le volume, il commence à naître. Et puis, quand ça fonctionne, et je fais déjà un premier rendez-vous avec le maître d'ouvrage pour dire, est-ce que si on s'organise comme ça, vous êtes satisfait? Alors, des fois, ils disent, ah oui, c'est bien, je ne l'avais pas vu. J'avais gagné le concours Sud-Ouest, je restais pendant 20 ans à Sud-Ouest parce que j'ai proposé une solution à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout et qu'ils n'avaient jamais vu. Et puis, ils se sont dit, mais c'est comme ça que ça va marcher. Vous voyez. Donc, le croquis, le dessin, le schéma de fonctionnement est essentiel. Puis, une fois qu'on a fait ce schéma et que le maître d'ouvrage l'approuve, on commence à penser sa mise en œuvre. Donc, alors, les matériaux viennent parce qu'il y a des projets qui n'acceptent pas tel type de matériaux pour des raisons soit de feu, soit d'autres choses. Et donc, on arrive à ce moment-là à avancer sur un choix de matériaux. Et en ce qui me concerne, je suis contre le geste architectural. Parce que...
Fort. N'oubliez pas la force.
Fort. S'il est mauvais, c'est encore plus. Mais parce que quand on fait un geste architectural et qu'ensuite on essaie d'y faire rentrer au forceps le programme, ça ne marche pas.
D'accord, je suis très satisfait de la réponse. La seconde question, et ce sera la dernière, après on parlera des maisons.
Marc.
Ça sera Marc. Vous, parmi ces nombreux programmes, ces nombreuses commandes que vous avez eu la chance, dont vous avez eu la chance d'être chargé et que vous avez pu réaliser, certaines sont des édifices publics. Vous me parliez de l'auditorium. Par exemple, ou même la Cité du Vin, ce sont des édifices publics. Ils s'inscrivent dans un contexte architectural préexistant, généralement historique. Vous avez la même chose à Toulouse, vous êtes arrivé dans d'autres villes. Donc, ce sont des édifices un peu particuliers, prestigieux par leur usage, prestigieux par leur ampleur, etc. J'avais la question la suivante. Par conséquent, à vos yeux, qu'est-ce qu'un monument ? Car vous avez construit des monuments. C'est pas des édifices comme les autres. Et au-delà de la simple fonction, ils ont autre chose, une qualité supplémentaire qui est nécessaire pour achever vraiment leur donner leur pleine qualité. Je ne sais pas pour vous piéger que je vous pose ça, mais c'est parce que ça me semble vraiment important quand on s'inscrit dans la continuité d'une histoire architecturale, à laquelle en plus on est attaché, on le sait, c'est votre cas. Voilà, quand vous avez affaire face à un monument, est-ce que vous posez la question de dire qu'est-ce qui fait le caractère monumental d'un édifice ?
Alors, il faut rester humble d'abord parce que dans les temps que nous vivons, modernes, les immeubles n'ont pas la même pérennité qu'avant. Hein. Moi, j'ai connu plein d'immeubles qu'on a construits. Je crois avec bonheur pour ceux qui les occupaient, qui sont démolis, rasés. On ne nous demande même pas notre avis. Une très belle maison que j'avais faite à Mérignac a été démolie sans qu'on demande quoi que ce soit et sans qu'aucune autorité ne vienne dire qu'il faudrait la conserver. Elle avait été publiée dans les revues du monde entier. Et puis un jour, un gars qui a acheté le terrain, paf, il a rasé la maison alors qu'elle est pleine d'idées novatrices, notamment dans les structures. Bon, il faut rester humble. On ne fait pas des monuments. Moi, mon rôle, c'est de répondre à la question qui m'est posée, et d'essayer de faire le bonheur, non seulement, enfin je vais être très prétentieux, mais c'est pourtant ce que je pense, non seulement le bonheur des gens qui habitent ou qui vivent le lieu, mais le bonheur de ceux qui le voient. Parce que nous, architectes, on fait le décor de la vie de tout le monde. Hein, quand on nous demande un immeuble dans une rue ou dans un quartier même nouveau, on va réaliser le décor de la population qui va non pas seulement vivre dans ses appartements, mais qui en sortant va passer devant son immeuble. Et si l'immeuble est intéressant et si l'immeuble a de la qualité, elle va être heureuse d'y revenir le soir et de l'habiter, même peut-être fière d'être dans cet immeuble. Et c'est ça, moi, mon sujet principal. Après, le monument, je n'ai pas la prétention d'avoir fait des monuments, et je ne sais pas ce que c'est. Si par contre, on me demande, comme à Toulouse, qu'on a vu l'image tout à l'heure, d'aménager le quart de la place du Capitole parce qu'il était en désuétude, parce qu'il était inhabité, parce que ceci, là, je me dis, ah, ça, c'est un monument, effectivement. Et je vais chercher ce que Urbain Vitry, qui est l'architecte qui a fait la place du Capitole, pourquoi il a fait comme ça. Et je me suis aperçu qu'il n'avait jamais terminé son travail. Donc, j'ai repris ses plans, j'ai repris ses éléments et j'ai essayé de terminer son travail. Et les parties qu'il fallait compléter, j'ai essayé de les écrire dans la manière dont lui, ou selon la manière avec laquelle il aurait pu continuer son travail. Et c'est pareil, le Grand Hôtel de Bordeaux, ben, c'est un monument, le Grand Hôtel, qui n'est en fait 8 immeubles. 8 immeubles, j'ai essayé là de dire, ben, on va donner l'impression qu'il a toujours existé en faisant qu'il y ait une entrée dans l'axe qu'il n'a jamais eu et que quand on rentre, il y a un premier salon, un deuxième salon et de tomber dans cette merveilleuse cour qui est l'hôtel Acar, qui lui était totalement indépendant, mais que j'ai pu associer et qui est l'impression d'une continuité. Là, ça, c'était pour moi très intéressant de manière de donner l'impression que c'était un tout. Que n'a jamais été. Hein. Là, c'est captivant d'ailleurs, mais je m'étais permis de vous faire venir pour que vous m'aidiez d'ailleurs à connaître l'histoire des bâtiments, hein, parce qu'il y avait quand même des questions que je me posais. Et voilà, on a fait ça.
Bon, ben, je vous remercie. Passons du monumental au quotidien. Et je laisse la parole à Marc Saboya pour vous interroger sur l'habitat, les maisons.
Donc, on hésite encore, je dirais étymologiquement, sur la définition du mot utopie. Certains l'interprètent selon une racine particulière qui serait eutopia, c'est-à-dire l'endroit du bonheur. Et je crois que là, il a répondu tout à l'heure. Michel, avec ces maisons où on est bien et qu'on aime voir, dans lesquelles on habite, etc. Mais il y a aussi le deuxième sens, mais qui va aussi avec le premier, qui est peut-être le plus couramment utilisé, c'est-à-dire le pays qui n'existe pas, le pays de nulle part. Hein, voilà. À partir donc de l'utopie de Platon et qui sera repris chez les grands utopistes plus tard, Thomas More et compagnie. Voilà. Et quand on feuillette ton livre, Michel, on découvre effectivement un grand nombre de projets qui n'ont jamais été réalisés. Et au bas d'un de ces projets, il y a même un petit mot que tu ajoutes, que je vais citer, et je vais te demander quel est ton sentiment par rapport à ça, c'est-à-dire en deux mots. Ce que la question que je te pose, et après avoir lu ton petit texte, c'est qu'est-ce que joue pour toi dans ta créativité ces projets qui sont utopiques parce que apparemment il semblerait qu'on ne puisse pas les réaliser par rapport à leur forme, par rapport même peut-être à une implantation particulière. Quel rôle joue-t-il dans ta création, hein? C'est-à-dire, en deux mots, je te cite, tu réponds pas, mais enfin plus ou moins, voilà ce que tu écris à partir du projet de Burdipolis, 1994, hein, tout près d'ici. C'est-à-dire une partie de la rue Porte-Dijot aménagée en commerce, en habitat, etc., avec des passages à l'intérieur. Voilà ce que tu écris. La vie d'un architecte s'enrichit plus intellectuellement du non-aboutissement de certains projets. La propension à l'utopie est une difficulté ou un défaut dont je n'arrive pas à me séparer. Voilà. Alors, si tu peux nous commenter cette déclaration, ce serait intéressant parce qu'on pourra discuter à partir de là, justement, sur ce que c'est pour toi que, d'une part, le projet un peu fou, d'autre part, l'architecture dite de papier, hein, aussi, 18e siècle, début 19e, voilà. Et puis, voilà, et puis le reste, voilà.
Oui, moi, je pense que pour que les architectes puissent mieux travailler le mieux possible, il ne faut pas qu'ils restent seulement sur leur quotidien. Parce que c'est astreignant, ça prend un temps fou, et il faut quand même, on est des créateurs, on est des artistes, il faut savoir se libérer comme un peintre, comme un sculpteur, comme un musicien, savent aller sur leur seul domaine, sur leur seul programme qu'ils se donnent à eux-mêmes. Un musicien, il s'invente ses thématiques de musique et puis il travaille dessus. Un peintre dans son atelier aussi. Or, les architectes, on a tendance, à tort, à rester enfermés dans notre quotidien, dans nos problèmes de plus en plus compliqués, les règlements de plus en plus compliqués qui nous mangent la vie et qui nous mangent toute inspiration. Et moi, je crois que nous devons devenir, redevenir, parce que c'était comme ça au 18e, des apporteurs d'idées à la cité. Nous devons apporter notre pierre dans la construction de la cité en apportant des idées. Je vais être brutal. Il ne faut pas laisser aux fonctionnaires, aux élus et aux responsables patentés la seule façon d'imaginer la ville de demain. Parce qu'ils sont sous des contraintes autres, qui sont celles de l'élu, qui a un projet pour se faire réélire, qui sont sous celles de leurs propres écoles, qui leur ont appris certaines techniques, et ils ne sont en aucun cas libres. Et donc, ils nous proposent des villes mécaniques, calculées, chiffrées, qui manquent d'inspiration. Bien sûr, on fait appel à des architectes à ces moments-là, mais eux, ils sont obligés de répondre à ces demandes. Moi, je crois qu'il faut que les architectes, les urbanistes, c'est le même métier, c'est plus spécifique, l'urbaniste, sachent dire, ben voilà, pour tel quartier, pour telle ville, je pense que l'on pourrait envisager, vu l'évolution des métiers, l'évolution des familles qui sont complètement en train de se transformer, vu l'évolution des transports, vu l'évolution des techniques, vu l'environnement, vu tout ça, il faudrait imaginer une ville comme ceci. Ça existe. Il y en a. Et il y a des très bons ouvrages qui paraissent là-dessus. Moi, c'est mon thème. Il faut que nous... Et quand on revient au quotidien, on s'est lavé la cervelle et on a pris de la distance et on peut être, je pense, meilleur pour le quotidien. C'est un peu ce que j'ai voulu dire.
C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ta vision, d'une certaine manière, d'un projet ou d'une ville idéale, hein, bien mieux que la réalité actuelle, va ensuite... permettre la réalisation bien en dessous de ce projet, mais quand même qui sera possible qu'à partir de cette réflexion qui va t'amener peut-être très loin dans des sphères, peut-être au-delà d'une réalité.
Qui est de l'ordre de la poésie.
Si on veut, hein, oui, c'est de l'ordre d'une prospective aussi et du rêve.
Oui.
Alors justement, j'aime... Oui, peut-être que tu veux parler de cet exemple-là, parce que je vais en avoir un autre à te soumettre.
Vas-y.
Alors, prenons par exemple cette idée-là de proposer à des gens une maison qu'ils vont construire eux-mêmes. Au départ, c'est une utopie, hein, parce que les gens ne vont pas pouvoir construire leur maison. Et ensuite, à bon marché, et partant de cela... Tu leur donnes pourtant les moyens de réaliser cette utopie. Voilà, c'est-à-dire cette maison que tu nous montres, la maison Boulon. Est-ce que je me trompe en disant qu'au départ, on est dans un rêve et qu'en fait, ce rêve qui paraît improbable, tu donnes une forme de réalité ?
Oui. Alors, en fait, en 1964, toujours M. Périnet, qui a été très important pour moi, me demande de réaliser le 1er avril un projet pour le 1er juillet. Bon, fini. Alors, je dis, bon, on va essayer. Je dis toujours oui, moi, c'est un de mes défauts. Et donc, à ce moment-là, je me dis, on va aller chercher des pièces, des éléments qui existent chez les commerçants. Et on prend des éléments de bois taillés à l'avance par la scierie. Et on les coupe simplement de longueur. Et on réalise à Royan, dans l'été 1964, un centre de vacances pour faire plein de choses. Très bien. Et je me dis après, mais finalement, provoqué par ce quotidien, j'ai trouvé une solution qui pourrait se développer pour tout le monde, quoi. Et donc, j'ai continué à travailler sur ce thème et aux environs des années 66, 67, 66, je dessine la maison Boulon qui était que des pièces pouvant être portées par deux personnes une femme et un homme, un couple, une famille, et qui était vendu en pièces détachées, la maison, avec des équerres et des boulons, et qui était vendu sur catalogue aux Galeries Lafayette à Paris. Et alors, c'était une vraie utopie. Moi, je suis allé là-bas, aux Galeries Lafayette, pour vendre ma salade. Et on marionnait, mais ça les a amusés. Et ils ont fait le truc dans un coin. Et on en a vendu, même dans la vallée de Chevreuse, etc. Et c'est un projet qui était une vraie utopie, parce qu'on vendait même les fondations. C'est-à-dire qu'on vendait dans la caisse qui recevait une espèce de trépied en acier galvanisé. Il suffisait d'enlever un peu le pelon, ce qu'on appelle le pelon, la terre végétale. On posait ça, et comme c'est léger, on posait ça dessus. Et on en a réalisé à peu près une centaine au coup par coup. Mais après, moi, je ne pouvais pas rester, et puis ce n'était pas mon esprit, lié à ça et consacrer ma vie à faire de la maison préfabriquée comme ça. L'erreur, enfin pas l'erreur, le problème, c'est que j'avais été trop en avance. J'ai réussi à la faire homologuer, c'est-à-dire que les gens qui achetaient ce plan pouvaient même toucher des primes, parce qu'à l'époque, l'habitat était primé. Quand les gens faisaient une maison, ils touchaient une prime de l'État, une subvention pour faire leur maison. Et on en a réalisé, il y en a une quinzaine autour de Bordeaux, il y en a à Lacanau, il y en a au bassin d'Arcachon, on en a réalisé pas mal. Puis après, ça a été une entreprise qui a acheté le procédé et qui l'a développé. Et puis moi, je suis passé à d'autres sujets. Mais voilà, c'est...
D'accord. Donc, l'utopie enrichit donc ce que tu dis dans ton livre, enrichit le quotidien d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce quotidien n'existerait pas sans qu'il y ait au départ une sorte de rêve, hein, dont le but est d'abord de renouveler des formes, de renouveler une pratique de la construction et d'améliorer les conditions de vie de ceux qui y vont l'utiliser.
Oui, c'est ce qu'on a essayé de faire.
On est vraiment là, si vous voulez, dans une définition typique d'utopie. Alors, deuxième utopie que je voudrais quand même que tu nous expliques, ou dont je voudrais que tu nous parles, et qui m'a énormément étonné dans ce texte, c'est ce projet... que tu appelles un projet de 2014, tout récent, que tu appelles la tour des grands arbres à Bègle. Parce que dans cette tour des grands arbres à Bègle, tu imagines même un élevage d'insectes très riches en protéines qui pourraient donc être envisagés à l'intérieur de ce bâtiment. Alors là, si on n'est pas dans l'utopie, où est-on alors là précisément ? Qu'est-ce que tu penses de cela ?
Oui, alors rien n'est neutre. Et en fait, bon, vous lisez tous dans la presse qu'il faut se préoccuper de l'environnement, que demain ce sera différent, que la Terre ne pourra plus nous nourrir, qu'il faut enlever tout ce qui est pesticides, etc., pour avoir des nourritures saines, mais qu'il faut aussi... Et ça, c'est, je le crois, reconcentrer la population dans les villes. Parce que plus on construit des maisons individuelles à la périphérie, plus on pollue. Parce qu'il faut y aller avec sa voiture et revenir, et on pollue et on consomme du territoire qu'il vaudrait mieux laisser à la nature ou à l'agriculture. Donc, le thème était de dire comment peut-on redensifier la ville, mais en même temps y trouver la nature. Alors, j'ai découvert qu'à côté du restaurant qui s'appelle le Chiopo, sur Bègle, au sud, il y a un grand territoire qui appartient pour partie à une famille ancienne de Bordeaux, avec une maison de maître, des bois, des prés, et qu'à côté, il y a un terrain qui est constructible et qui pourrait recevoir un projet. Alors, j'ai inventé, mais ça, je crois qu'on n'y arrivera jamais à le réaliser, d'ailleurs, j'ai inventé un projet dans lequel le bas est un parking qui est comme une colline, avec un parking dessous, pour qu'il soit chaud tout le temps. Pas seulement pour que les voitures soient bien, mais parce qu'il fallait que j'ai de la chaleur en bas, vous allez voir pourquoi. Et sur cette partie colline, on met en pied de l'immeuble des espèces d'appartements en terrasse qui auront chacun leur petit jardin. Au-delà de cette colline artificielle, on met des jardins partagés. Et ensuite, on se sert du terrain d'à côté, dont j'ai rencontré les propriétaires, pour mettre des chevaux, pour avoir du crottin, pour le crottin pour nourrir les plantes. On met des moutons pour ensuite tondre les gazons. On met, etc., et des vaches, etc. Et on loue les terrains de cette propriété voisine, qui, elle, doit rester naturelle. Et au milieu du terrain constructible, je construis un immeuble. Alors, vous allez me prendre pour un fou, mais enfin bon, de environ 130 mètres de haut. Alors, l'immeuble de 130 mètres de haut, est-ce qu'il est gênant dans le paysage là-bas ?
Non. Et j'ai fait des photos dans mon dossier prises depuis le pont de Pierre, parce que quand on le voit, il est complètement à gauche quand on est sur le pont de Pierre et qu'on regarde Bordeaux. Et comme il est loin, sa hauteur n'est pas gênante. Elle ne vient pas lutter avec la flèche Saint-Michel. Deuxièmement, l'avantage d'avoir un bâtiment haut, c'est qu'on peut, en l'intérieur de ce bâtiment, créer ce que j'ai dessiné, 4 colonnes vides verticales. Ces colonnes vides vont faire que l'air qui est assez chaud en bas, toujours, va monter. C'est traditionnel, c'est naturel. Et en montant, il faut qu'il y ait au moins 130 mètres pour qu'il y ait un effet de venturi suffisant. En montant, à chaque étage, il va faire tourner une éolienne dans l'intérieur de ceci. Et comme il y a 4 tours prévues à l'intérieur, en plus des escaliers et des ascenseurs, ces 4 éoliennes par étage alimenteront en électricité les 6 ou 8 appartements de l'étage. Puis autour, je fais ces appartements et chaque appartement a 3 terrasses. Une terrasse pour planter des plantes, et ça existe maintenant, on le trouve dans tous les journaux, pour des tomates, des carottes, des endives, des tas de choses comme ça. Et puis une terrasse plus d'agréments où il y aura des arbres fruitiers. Et la troisième terrasse, c'est pour mettre des animaux. Alors, des poules, des dindons, des pintades, ce que vous voulez, mais en même temps, avoir un espace où il y aura des insectes, ouais. Puisqu'il est vraisemblable...
Très riche en protéines.
Alors, Alain Juppé a visité l'Expo et il m'a dit, oui, avant même que je lui dise, il a dit, oui, c'est riche en protéines, c'est l'avenir de demain. Donc, on a un maire qui connaît l'avenir. Mais... pas le sien.
Qu'il faudrait qu'on mange.
Tu les élèves et tu les manges. Et tu ne vas plus chez le pharmacien parce que
on est autonome là dans votre tour.
Et la tour est autonome en énergie et en nutrition.
Oui. Alors, moi, je voudrais rebondir là-dessus. En dehors du fait qu'on est quand même presque près de Jules Verne, d'une certaine manière, et c'est pas critique ce que je dis là. Tu termines ce petit texte en disant que les gens vont, ou il faut, vivre dans une sobriété heureuse. Je suis d'accord. Je veux dire, mais en quoi l'architecte a-t-il le droit de totalement prévoir et imposer, d'une certaine manière, la vie des gens ? Là, on est vraiment dans l'utopie au sens le plus dangereux qu'il soit. C'est-à-dire que l'utopie ne c'est pas simplement un rêve, c'est aussi une organisation contraignante. Et je pose la question, est-ce que l'architecte, en général, n'est pas amené à devenir Big Brother, d'une certaine manière, et à faire tomber le rêve dans le concentrationnaire ? Voilà.
Alors,
c'est un peu délicat.
J'ai deux réponses. Non, c'est pas délicat. La première réponse, c'est qu'il n'a pas. Il n'a pas le droit. Il a le devoir.
Il y en a eu beaucoup d'architectes qui sont tombés dans le défaut que vous soulignez. Hein.
Alors, je dis, il a le devoir parce que si les philosophes n'apportent plus d'idées, si les poètes font plus de poésie et si les architectes n'inventent pas des mondes meilleurs, où allons-nous ? Donc, il a le devoir d'aller plus loin. Et là, tu fais penser sans doute à ce que pense Robert Gousset. Tu me fais penser à Le Corbusier qu'on a traité de fasciste et on a dit la cité radieuse de Marseille, c'est une honte. Il a imposé les appartements au milieu des immeubles, il a imposé l'école dessus. Mais de quel droit cet homme se permet de faire ça ? Et Luc Ferry a fait un contresens considérable quand il est venu à la cité du vin, c'était la civilisation du vin à Bordeaux, puisqu'il a dit que c'était un fasciste concentrationnaire et qu'il fallait, enfin, amenant la concentration de la population et qu'il fallait surtout s'échapper de Le Corbusier. Non, Le Corbusier a été un génie, Le Corbusier a été un homme important et la cité radieuse à Marseille, au jour d'aujourd'hui, les appartements valent très cher et tout le monde veut y habiter. Parce que, vraisemblablement, il était visionnaire, il était en avance, mais il a créé une unité, ça s'appelle une unité d'habitation, dans laquelle le bonheur, il a essayé, il a proposé. On n'est pas obligé d'y aller y habiter. Il a proposé que les gens, le matin, ils puissent amener leurs enfants à l'école qui est sur le toit, sans être obligés de sortir, sans être obligés d'aller dans le froid, comme maintenant. Et les enfants sont sur un toit qui est dans un air qui est sain. En haut, ils ont une vue sur les Alpes, ils ont une vue sur la Méditerranée magnifique. Et en même temps, quand ils redescendent d'avoir amené les enfants à l'école, ils n'ont pas perdu de temps, ils n'ont pas été respirer du monoxyde de carbone, ils vont dans la rue commerçante, ils achètent leur pain, leur victuaille, ils rentrent chez eux, et puis ils vont travailler, puis ils reviennent. Alors, est-ce que c'est une utopie fasciste ou fascisante ?
Non, non, mais pas du tout. C'était seulement pour lancer la discussion là-dessus. C'est-à-dire que, je veux dire, il y a dans certains aspects, effectivement, ce qui est un petit peu dangereux chez l'architecte, c'est d'avoir une personnalité trop forte qui va imposer sa manière de vivre. Hein,
il la propose, il l'impose pas, il la propose.
Si, l'architecture impose, je ne suis pas d'accord. L'architecture, c'est quand même des murs, c'est quand même des couleurs, c'est quand même quelque chose qui est pérenne, donc qui n'est pas aussi transformable et qui ne va pas disparaître comme ça. Mais ça impose l'architecture.
L'architecte, je le considère là au niveau des idées.
Oui.
Il n'est pas l'entrepreneur.
Oui, c'est ça.
Après,
oui.
S'il y a un maître d'ouvrage municipal ou privé qui décide de réaliser cette utopie,
oui,
c'est le couple architecte. Il y a un autre architecte français qui a eu des utopies comme ça et qui s'appelait Pouillon. Pourtant, si vous allez en Algérie, vous verrez que les bâtiments intelligents faits par Pouillon sont parmi les plus beaux bâtiments modernes de l'Algérie.
Plus beaux, je ne sais plus. Ils sont dans un état de ruine presque maintenant. Hein. La vie collective qu'il avait envisagée Pouillon dans le fameux immeuble collectif d'Alger n'a jamais vraiment marché à la manière dont il voulait qu'elle marche. Hein. Voilà. Donc finalement, l'architecte est toujours aussi dépassé peut-être.
Voilà. Moi, ce que je crois, c'est que je ne suis pas aussi ferme que Marc.
Non, mais c'était pour le débat.
Parce qu'en fin de compte, c'est l'usager qui a toujours raison. Contrairement à l'architecte qui se défend, parce qu'on perturbe la belle harmonie de sa création. Et souvent, l'architecte se plaint et exige que l'on respecte son œuvre telle qu'il l'a pensée et créée. Mais en fait, l'usager, il va ouvrir des fenêtres, il va changer les meubles. Et pour en rester Le Corbusier, nous avons à nos portes l'exemple de la cité
Fougès,
où effectivement, l'utopie, en quelque sorte, contraignante de Le Corbusier, s'est heurtée à la réalité de l'usage des habitants qui, à ce moment-là, avaient beaucoup plus qu'aujourd'hui, toute liberté pour réinterpréter et s'approprier l'œuvre de l'architecte.
Et d'ailleurs, Le Corbusier, dans une de ses visites très tardives, a dit finalement, c'est toujours l'usager qui a raison.
La très belle maison du Cap Ferré, qui est, à mon avis, un des chefs-d'œuvre de l'architecture de villégiature du XXe siècle, hein, dans sa beauté et dans sa prouesse technique. Je te laisse parler, je n'ai pas de questions à poser, seulement je... Voilà.
Oui, alors, comme l'a dit Robert Coustet, il n'y a pas d'architecte sans maître d'ouvrage. Et il n'y a pas de bonne architecture sans bon maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, il est capital. Le maître d'ouvrage qui vient vous voir et qui dit « Je voudrais une gentilhommière type 18e, mais avec des radiateurs électriques et l'informatique partout », il y a des contresens dans ce qu'il demande et on n'est pas obligé de le faire. Ça m'est arrivé, j'ai une fois refusé de faire. Mais quand le client vient et qui vous dit « Monsieur, faites ce que vous voulez », c'est très dangereux parce que quand on rentre chez soi, on dit oh là 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 là. Mais deux, c'est une grande ouverture. Or, j'ai eu la chance en 1968-69 exactement de rencontrer un monsieur qui était très dynamique et qui avait un terrain au Cap Ferré étonnant. Et il vient me voir, il me dit je vais vous faire un petit concours, j'ai vu d'autres confrères à vous, faites-moi une esquisse, vous paierez l'esquisse. C'était bien, parce qu'il y en a qui font faire des esquisses, il ne les paie pas. Mais, et je vais voir son terrain, il m'y amène, et c'est au Cap Ferré, et c'est un terrain qui était très difficile. C'est un terrain qui est une dune, on n'arrive pas derrière cette dune, plantée d'arbres, et puis qui descend très, très à pic vers le bassin, et qui va jusqu'au bassin, le terrain. Et il me dit, voilà, je voudrais faire là une maison de 200 mètres carrés, voilà, etc. je rentre chez moi et je dis, mon Dieu, mais c'est pas possible. Si je mets la maison en haut, elle est dans, je vais d'ailleurs abîmer le haut de la dune et elle va être dans les pins, on verra rien parce qu'elle sera dans la frondaison supérieure des pins. Et si je la mets sur le terrain, je tue le terrain. Il est en équilibre instable, je vais tuer le terrain. Alors là, il m'est venu une idée, c'était de dire, la dune, elle fait ça pour descendre, comme ça. Alors, je vais ouvrir la dune, juste sur 6 mètres de large seulement, et je vais faire un tube en béton qui va partir au-delà de la dune, dans le vide. Et sur ce tube en béton, je vais suspendre une maison de 200 mètres carrés, 100% vitrée. Alors, c'est étonnant, parce qu'il m'a dit oui. Sa femme n'avait pas compris du tout, la pauvre. Elle croyait que je lui faisais une suite de salles, comme on dirait dans un salon à Bordeaux, qui s'enchaînent, si je puis dire, les unes après les autres. Je dis oui, vous aurez des salles qui seront les unes après les autres, mais elle n'avait pas bien vu ce que je faisais. Après, elle était contente. C'est très intéressant. On avait un petit budget. J'ai réussi à trouver des solutions techniques. Et quand on arrive, on voit la dune, on voit un tube en béton brut, deux grandes portes. On prend ces deux grandes portes. Dans la première partie du tube, on peut rentrer les voitures. Ça fait à peu près 15 mètres de long sur 6 mètres de large. Il y a un éclairage. Et quand on arrive au bout du tube, on ouvre les portes et on est dans les arbres, juste sous la frondaison des arbres, des pins. Et on est dans les troncs, dans la partie haute des arbres. Et on voit tout le bassin. C'est absolument soufflant quand on arrive là. Et c'est sans doute un parti qui m'est venu dans la difficulté quand je cherchais, mais qui est dû à la qualité du maître d'ouvrage et à la qualité du site, parce que sur un terrain plat, on ne peut pas faire ça, quoi.
Qui est dû aussi à une de tes qualités, c'est l'audace, parce que il fallait être audacieux pour jeter ce porte-à-faux dans un vide et faire vivre des gens comme ça, suspendus dans le vide, entre le ciel et rien, quoi.
Aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire.
Oui.
Pour trois raisons. Oui. Mm-hmm. Première raison, c'est que le permis de construire, on ne le donnerait pas. Mm-hmm. Deuxième raison, c'est que les bureaux de contrôle diraient « ça ne tient pas ».
Oui.
Et troisième raison, c'est que l'entrepreneur aurait tellement la trouille qu'il refuserait de le faire.
Voilà. Alors que ça tient depuis 1970, tu dis, 71. Un autre projet que je trouve très intéressant, c'est celui que tu as installé, qui n'existe plus, je crois, à... C'est pas à Maubuisson, c'est à Biscarrosse, non. C'est structure métallique. Ce projet, à mon avis, est un véritable geste de land art, pratiquement.
Oui. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce qu'on appelle des projets temporaires, provisoires. Nous sommes à Seignos-le-Pénon. C'est en 1969. La Caisse des dépôts et consignations va lancer, dans le cadre d'aménagement de la côte atlantique, un grand projet. Mais il y a une lande, il y a quelques maisons qu'on aperçoit à travers la structure. Et ils disent qu'il faut qu'on fasse un été de simulation de ce projet-là. Et je suis retenu sur mon idée pour que les gens disent que quelque part, il y aura un cœur de ville. Alors, la photo n'est pas la meilleure pour vous faire comprendre le projet. Alors, j'ai dessiné une structure en tube d'échafaudage qui était jaune et qui allait depuis la forêt, qui est à gauche,
jusqu'à la dune.
Jusqu'à la dune, et qui se terminait à la dune par une partie encore plus haute. D'accord. Ce qui fait que quand les gens allaient à la plage, et au milieu, comme on le voit, j'ai tendu une immense bâche jaune, mais jaune vif, qui était au milieu. Ce qui fait que quand on allait à la plage avec les enfants, on ne pouvait pas ne pas le voir, parce que quand on traversait la lettre, on le voyait. Mm-hmm. Et quand on était sur la plage, en étant allé à la plage par un autre endroit, on ne pouvait pas manquer de voir cet élément qui montait à 30 mètres de haut, avec des drapeaux partout qui volaient au vent. C'est bord de plage, ça marche très bien, ça. Mm-hmm. Je l'ai refait après à Saint-Cyprien, mais pas exactement comme ça. Et dessous cette grande bâche, le soir, on avait mis des caillebotis-bois et il y avait des toilettes, c'est un détail, mais c'est important. Il y avait un bar, et tous les soirs, il y avait du café-concert, du café-théâtre, des éléments, et il y avait les plans exposés. Et donc, les gens, à travers un lieu ludique, complètement inattendu, ont découvert que Seignos le Pénon, ça pouvait exister, et ça s'est fait.
C'est-à-dire
et
que ça, ce qui est étonnant là-dedans, c'est pas seulement cette grande bâche, c'est surtout cette partie du paysage barrée par cette grande structure
inutile.
De métal. Inutile. C'est pour ça que je parlais de land art tout
c'est
à l'heure.
Land art.
Chose qui serait maintenant quasiment impossible, je suppose, vu les différentes réglementations.
Oui, surtout qu'on a fait ça à la sauvette. J'ai moi-même participé à sa construction. On est allé chercher des câbles pour tenir ça au vent et tout. Mm-hmm. Bon, on était un peu fous.
Qu'est-ce que c'est devenu ?
Ah, ça a duré 2 mois.
C'était éphémère.
Ça a été ouvert le 1er juillet et fermé le 30 septembre, fin septembre. Et tout le monde a plié les gaules, comme on dit, à rentrer.
Alors, une autre utopie, à mon avis, ça n'est une aussi, parce que c'est un projet qui n'a pas eu de réalisation, et je ne sais pas si tu l'as amené, c'est le fameux tube de Maubuisson, 1972.
Non, je n'ai pas amené.
Bon, d'accord. C'est un tube qui doit permettre, dans lequel on doit habiter, 2000 personnes, tu dis ?
Oui.
Et qui, sous le prétexte de protéger totalement la forêt, à mon avis, abîme quand même le rivage.
Non.
Non.
Alors, c'était un concours qui avait été lancé dans le cadre de l'aménagement de la côte atlantique sur Maubuisson. Vous connaissez Maubuisson dans son état actuel, c'est très bâti, il y a beaucoup de bâtiments. Et il y avait, au nord de Maubuisson, Bombane, où il y a la base nautique de Bombane, où il y a l'entraînement pour les Jeux olympiques, etc., etc. Et le concours, il y en a qui se sont mis à terre, qui ont fait des routes et qui ont fait des lotissements et qui ont fait des logements. Et nous, j'ai travaillé avec un excellent architecte, malheureusement lui aussi disparu, Michel Sadirac. Et à tous les deux, on a inventé de dire la chose suivante. Vraiment, il ne faut pas construire dans la forêt parce qu'elle est belle, elle est fragile, il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas construire sur la plage non plus parce qu'il ne faut pas y toucher. Par contre, on peut très bien mettre des pieux dans l'eau, ça ne se voit pas. Et puis faire sur des tubes qui montaient à peu près à une quinzaine de mètres de haut, un tube horizontal qui avait des appartements avec côté est la vue sur le bassin et le soleil levant, côté ouest la vue sur la forêt et la plage, et sur l'eau juste posé flottant, parce qu'il y a une différence de niveau qui peut aller jusqu'à plusieurs, presque 80 cm entre les eaux les plus basses et les eaux les plus hautes du bassin du lac, des grands pontons sur lesquels il y aurait les commerces, les restaurants, les écoles, etc. Donc quand on est sur le bassin, on peut y venir en bateau, comme à Venise. Mais quand on arrive en voiture avec sa femme, ses enfants, et la trottinette et la planche à voile maintenant et tout ça, comment on fait ? Alors, on a inventé le fait, dans un endroit, de faire des tubes dans le sol, de faire un parking enterré. Donc, on descend avec sa voiture, on monte dans un ascenseur avec toutes ses valises. Et en haut, il y avait, au-dessus du tube, un monorail posé sur des poteaux grands comme des pins. Et ce monorail amène sous le tube.
Science-fiction.
Donc, quand on arrive, on monte dans ça. C'est un peu du Boris Vian. Et quand on arrive, on monte dans ce monorail. Et puis, vous arrivez à la colonne verticale où il y a votre appartement. Vous descendez, vous montez dans votre appartement. Et quand vous voulez aller à la plage de l'océan, vous descendez, vous attendez que le monorail arrive. Vous l'appelez avec un truc électronique. Et le monorail, toujours sur des poteaux comme des pins, vous amène jusqu'à l'océan.
Merci Michel. Je dirais que seulement que la sobriété heureuse me fait un petit quai. Hein. J'espère aussi quand même qu'un jour, la langue de bois disparaîtra et qu'on développera l'idée d'un consumérisme heureux aussi, pas malheureux. Hein. Mais ça reviendra peut-être un jour. D'ailleurs, certains projets montrent une opulence, la preuve celui-là, qui est loin d'être de la sobriété heureuse. Voilà.
Merci.